Le journal, Liliane Guenat.
Bonjour. Débat vif sur les finances de Lanneville au Conseil Général hier soir. Le plan financier 2022-2030 ne convainc pas totalement le PLR qui tire la sonnette d'alarme. Le Grand Conseil débloque 49 millions de francs pour la lutte contre le Covid en 2022. L'accent sera mis sur la vaccination, le dépistage, la communication et le traçage. Ce dernier a fait débat du côté de l'UDC pour qui le rapport coût-bénéfice est largement négatif, vous l'entendrez. Du côté de la météo, des bancs de nuages résiduels sont présents ce matin, puis on passera un temps assez ensoleillé avant le retour des nuages dans l'après-midi et des averses en fin de soirée sous forme de neige puis de pluie. Les finances font grincer des dents à Lanneville. Le Conseil général s'est réuni hier soir à l'occasion de sa dernière séance de l'année. Une vingtaine de points étaient à l'ordre du jour. Les débats, bien que vifs, étaient plutôt brefs. Résumé de la soirée avec Diana D'Acosta.
D'entrée de jeu, ça coince. À la présentation du plan financier pour 2022-2030, le PLR tire la sonnette d'alarme. Il nous faut prendre un virage à 180 degrés si nous ne voulons pas foncer dans l'iceberg. Les mots de Mathieu Cochet qui demande à l'exécutif de prendre des mesures d'épargne sans plus attendre pour éviter une hausse de la quotité d'impôt. Un message entendu par les conseillers communaux. L'objet a finalement été adopté de peu à 16 voix contre 15. La suite du programme s'est ensuite déroulée sans trop de contradictions. Deux crédits d'engagement pluriannuels pour le ramassage des déchets urbains et des déchets verts ont été approuvés. Enfin, le conseil général a élu son nouveau bureau. C'est la socialiste Joëlle Meucli qui le présidera durant l'année à venir.
Le prochain Conseil général de Lanneville se déroulera le 23 mars. Exercice démocratique inédit à Moutier. Les Prévotois sont appelés à compléter leur conseil de ville après la démission de 13 élus antiséparatistes cet été. Ils le feront le 13 février prochain lors d'une élection complémentaire libre sans dépôt de liste. Le vote se fera au système majoritaire à un seul tour. Chacun des 4300 ayant droit de Moutier peut ainsi voir son nom être déposé dans l'urne. Ce dispositif électoral en pareille situation est prévu par le règlement communal. Il n'y aura donc pas de véritable campagne. Raphaël Chalvera a pris la température auprès des partis politiques encore présents au Conseil de ville.
Les cinq partis de l'entente jurassienne sont unanimes. Ils n'entendent pas profiter de l'élection libre à venir pour mettre en avant leurs membres ou sympathisants et tenter ainsi de gonfler leur rang. Ces 13 sièges appartiennent aux personnes qui ont voté pour l'UDC, le PLR et le PSJB, nous confie la présidente du RPJ, Chantal Méria. Rafler ces sièges, ce serait biaiser la représentation, affirme Julien Berthold du PCSI. Nous avons aujourd'hui une représentation qui correspond à ce que la population a voulu en 2018. Pas question d'élire des PSA déguisés, dit encore le président des socialistes autonomes, Pierre Sauvin.
Le son de cloche est en revanche différent au groupe Interface. On retrouve Raphaël Chalvera.
On a du potentiel avec l'affaire jurassienne qui est derrière nous. L'objectif est de renforcer notre présence pour accéder aux commissions, affirme le président Manuel Gsteiger. Interface indique ne pas avoir encore de stratégie pour cette élection libre. Une présence sur les réseaux sociaux est évoquée. Et du côté de Moutier à venir, l'unique élu, Francis Pelaton, antiséparatiste, est clair. Nous n'entreprendrons rien pour février. Je siégerai jusqu'au bout de la législature et notre mouvement disparaîtra. Les élections communales générales auront lieu en novembre, soit 9 mois après le scrutin libre de février. L'équipe qui sera complétée cet hiver n'aura sans doute guère loisir de créer des automatismes avant que tout ne soit remis sur le tapis.
49 millions de francs pour lutter contre le Covid en 2022. C'est le crédit complémentaire accepté hier par le Grand Conseil. La stratégie se compose de 4 points spécifiques. La vaccination, le dépistage, la communication et le traçage. Traçage qui a d'ailleurs fait débat et qui pèse à lui seul plus de 18 millions de francs pour 2022. 6 millions auraient suffit, c'est l'avis de l'UDC pour qui le rapport coût-bénéfice est largement négatif. On écoute à ce sujet la députée de Lanneville, Anne-Caroline Graber.
Selon l'UDC, le traçage n'est pas totalement inutile, hein, c'est-à-dire que nous ne remettons pas en cause la validité de ce type d'opération. Simplement, pour nous, les moyens mis en œuvre pour le traçage sont disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'on peut en retirer, raison pour laquelle nous avons remis en question ce crédit.
Un crédit finalement accepté contre l'avis de l'UDC. Le directeur de la santé, Pierre-Alain Schneck, lui-même a émis de sérieux doutes sur l'efficacité du traçage personnel. De plus en plus de Bernois tentent en effet de le contourner en donnant de fausses informations. Mais pas question de relâcher les efforts. Des investissements sont prévus pour améliorer le système en misant davantage sur des procédés numériques. La population de Crémines ne veut pas de nouveaux salons érotiques dans son village. Rassemblés en assemblée communale hier soir, les 62 ayant droit présents ont accepté d'interdire l'implantation de nouveaux établissements exerçant des activités de caractère érotique dans les zones mixtes ainsi que dans le centre du village. Ce vote étant consultatif, la procédure est désormais mise en route et l'affaire transmise à l'administration communale. Les médias régionaux et locaux suisses ont besoin d'aide. Le Conseil fédéral et une majorité du Parlement sont prêts à fournir un paquet de 151 millions de francs par an. Ce train de mesures est combattu par un comité référendaire qui estime qu'il s'agit d'un gaspillage d'argent public. Les citoyens trancheront le 13 février. Hier à Berne, la ministre de la Communication, Simonetta Sommaruga, a lancé la campagne du « Oui » en faveur des médias. Elle défend un paquet équilibré.
On peut dire qu'avec ce paquet média, il y a trois piliers qui sont renforcés. D'un côté, les journaux qui, justement, sont sous pression. On continue sur un instrument qu'on connaît déjà. Le deuxième pilier, c'est la formation pour les journalistes. C'est quelque chose qui est bien pour tous les médias, soit les journaux, les radios, mais aussi les médias online. Et puis, il y a le troisième pilier sur l'Internet. Et là, on sait que ce sont surtout les petits et les moyens éditeurs qui, maintenant, dans cette transformation, ont besoin d'un certain soutien pour faire cette transformation, pour que, justement, dans l'Internet, on ait aussi les informations au niveau local.
Pour Simonetta Sommaruga, les journaux et les journalistes conserveront leur indépendance. Les aides financières existent déjà aujourd'hui et rien n'indique, dit-elle, que les médias soient à la solde du Conseil fédéral. Un bus des transports publics balois s'est écrasé contre un mur hier après-midi. Surpris par une violente tempête de neige, un chauffeur a perdu le contrôle de son bus dans une pente. Le véhicule a ensuite foncé contre le mur de l'entrée d'un garage d'immeuble à Bettingen. 9 personnes ont été blessées, dont 5 ont dû être hospitalisées. Et en sport, Marco Odermatt en démonstration à Beaver Creek. Le skieur nidwaldien a remporté facilement le Super G de Coupe du Monde hier soir. Il a devancé de 78 centièmes l'Autrichien Matthias Mayer et de 95 centièmes le Canadien Broderick Thompson. Le clan suisse a signé de très bons résultats dans la station américaine. Le Valaisan Justin Merisier a terminé 8e, le Grison Gino Kvyatsel 10e, alors que le Bernois Beat Feuth a partagé la 12e place avec le Grison Stefan Rogentin. Un second Super G est prévu ce soir à Beaver Creek. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est le flash de 7h30. Très bon début de journée.